Harry ne suit pas très bien ce qui le poussa à agir. Il n'eut même pas l'impression d'avoir pris lui-même la décision. En tout cas, ses jambes le portèrent en avant, comme s'il était monté sur roulette, et il cria tout bêtement au serpent
« Laisse-le tranquille !»
Comme par miracle, le serpent retomba alors sur le sol aussi docile qu'un tuyau d'arrosage, les yeux tournés vers Harry. Celui-ci sentit toute crainte le quitter. Il savait que le serpent n'attaquerait plus personne à présent. Mais il aurait été bien incapable d'expliquer pourquoi. Il leva les yeux vers Justin et lui sourit. Il s'attendait à le voir soulagé, étonné au même, reconnaissant, mais certainement pas furieux et effrayé. « À quoi tu joues ?» Et avant que Harry ait pu dire quoi que ce soit, Justin tourna les talons et s'enfuit de la salle à toutes jambes. Rock s'avança, agita sa baguette et le serpent disparut dans une bouffée de fumée noire. Lui aussi observait Harry d'une étrange manière. Son regard rusé calculateur lui déplut profondément. Il entendait également autour de lui un murmure qui ne présageait rien de bon. Quelqu'un le tira alors par la manche. « Viens !» lui chuchota Ron à l'oreille. « On s'en va. Allez, viens !» Ron l'entraîna hors de la grande salle et Hermione les accompagna en marchant à côté d'eux à petits pas pressés. À mesure qu'ils avançaient, les autres élèves s'écartaient sur leur passage, comme s'ils avaient eu peur d'attraper une maladie. Harry n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, et ni Ron ni Hermione ne lui dirent un mot jusqu'à ce qu'ils aient regagné la salle commune de Gryffondor, encore déserte. Ron poussa alors Harry dans un fauteuil.
« Tu es un fourche-langue !»« Tu ne nous l'avais jamais dit !»«
Je suis un quoi ?»«
Un fourche-langue !» répéta Ron. « Tu parles le langage des serpents !»«
Je sais !» dit Harry. « C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Un jour, au zoo, j'ai fait sortir un boa constrictor de sa cage sans le faire exprès, et il a failli attaquer mon cousin Dudley. C'est une longue histoire. Le boa m'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil, et je l'ai libéré sans même m'en rendre compte. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais un sorcier.
« Un boa constrictor t'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil ?» répéta Ron d'une voix faible.
« Et alors ?» dit Harry. Il y a sûrement des tas de gens qui peuvent en faire autant ici.
Ah non, certainement pas. C'est pas un don très répandu. Harry, il faut que tu le saches. C'est une très mauvaise chose.
Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Demanda Harry, qui commençait à s'énerver. Qu'est-ce qui vous prend? Je n'avais pas dit à ce serpent de ne pas attaquer Justin.
Mais c'est ce que tu lui as dit?
Bien sûr, vous étiez là, vous m'avez entendu, non?
Je t'ai entendu parler fourche-langue, la langue des serpents. Tu aurais pu raconter n'importe quoi, personne n'y aurait rien compris. Pas étonnant que Justin ait paniqué. On aurait dit que tu encourageais le serpent à l'attaquer. C'était vraiment effrayant.
Harry le regarda bouche bée. J'ai parlé une autre langue. Je ne m'en suis pas rendu compte. Comment pourrais-je parler une autre langue sans m'en apercevoir?
Ron et Hermione faisaient une tête d'enterrement. Harry, pourtant, ne comprenait pas ce qu'il y avait de si terrible.
« Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de mal à empêcher un gros serpent répugnant d'arracher la tête de Justin? Quelle importance que je l'ai fait comme ça ou autrement? Vous auriez préféré que Justin finisse au club des chasseurs sans tête ?»«
Justement, ça a de l'importance, » dit Hermione. « Tout simplement parce que la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents. C'est pour ça que la maison des Serpentards est symbolisée par un serpent. »
Harry resta bouche bée.
« Exactement, » dit Ron. Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière-arrière-arrière-petit-fils. « Mais c'est fou !» protesta Harry, saisi soudain d'un sentiment de panique inexplicable. « Tu auras du mal à le prouver, » dit Hermione. « Il a vécu il y a environ 1000 ans. Pour ce qu'on en sait, tu pourrais très bien être son descendant. »
Harry resta éveillé des heures entières cette nuit-là. À travers une fente de son baldaquin, il voyait la neige tomber devant la fenêtre de la tour. Pouvait-il vraiment être un descendant de Salazar Serpentard? Après tout, il ne savait rien de la famille de son père. Les Dursley lui avaient toujours interdit de poser des questions sur les sorciers de sa famille. Dans sa tête, Harry essaya de dire quelque chose en fourche-langue, mais aucun mot ne lui vint à l'esprit. Il fallait sans doute qu'il se trouve face à un serpent pour pouvoir le faire.
« Pourtant, je suis un Gryffondor ! Jamais le choix-peau magique ne m'aurait envoyé dans cette maison si j'avais eu du sang de la famille Serpentard !»
« Mais au début, le chapeau voulait envoyer un serpentard. Souviens-toi !»
lui rappela une petite voix désagréable dans sa tête. Harry se retourna dans son lit. Il verrait Justin le lendemain au cours de botanique et lui expliquerait qu'il avait ordonné au serpent de le laisser tranquille, pas de l'attaquer. N'importe quel imbécile aurait dû s'en rendre compte, non ? Mais le lendemain, la neige s'était transformée en un blizzard si épais que le dernier cours de botanique du trimestre fut annulé. Le professeur Choura voulait mettre des chaussettes et des écharpes aux racines de mandragore, une opération délicate qu'elle ne pouvait confier à quiconque d'autre, à présent que les mandragores étaient devenus indispensables pour ramener Mistaigne et Colin Crivet à la vie. Dans la salle commune de Gryffondor, Harry, assis auprès du feu, ruminait de sombres pensées pendant que Ron et Hermione faisaient une partie d'échecs.
« Pour l'amour du ciel, Harry !» dit Hermione exaspérée. « Va donc voir Justin si c'est tellement important pour toi !»
Harry décida de suivre son conseil et sortit de la salle commune en se demandant où il pourrait bien trouver Justin. Bien qu'on fût en plein jour, le château était plus sombre qu'à l'ordinaire, à cause de la neige grisâtre qui tourbillonnait devant les fenêtres. Frissonnant, Harry passa devant des classes où des cours avaient lieu, percevant quelques échos de ce qui s'y passait. Le professeur McGonagall admonestait quelqu'un qui, d'après ce qu'il entendait, avait transformé un de ses camarades en blaireau. Résistant à l'envie d'aller jeter un coup d'œil, il poursuivit son chemin. Il pensait que Justin profitait peut-être du cours annulé pour rattraper son travail en retard, et il se rendit d'abord à la bibliothèque. Plusieurs élèves de Poufsouf, qui auraient dû partager avec Gryffondor le cours de botanique, étaient assis au fond mais ne semblaient pas travailler. Entre les longues et hautes rangées de livres, Harry les voyait absorbés dans une conversation apparemment très sérieuse, leurs têtes penchées tout près les unes des autres. De l'endroit où il était, il n'arrivait pas à voir si Justin se trouvait parmi eux. Il s'approcha et entendit alors quelques bribes de ce qu'il disait. Caché par des étagères, il s'arrêta pour écouter plus attentivement.
« J'ai conseillé à Justin de se cacher dans le dortoir », expliquait un des élèves, un gros garçon costaud. « Si Potter l'a choisi comme prochaine victime, il vaut mieux qu'il se fasse remarquer le moins possible. Justin s'y attendait depuis qu'il a raconté à Potter... qu'il était né dans une famille de moldus. Justin lui a dit que normalement, il aurait dû aller à Eton. C'est pas le genre de choses dont il faut te vanter devant un héritier serpentard, non ?
Alors, d'après toi, Ernie, ce serait vraiment Potter ?
Demanda d'un air anxieux une fille aux nattes blondes.
Réfléchis, Anna, répondit le gros garçon. Il parle fourche-langue. Il n'y a que les adeptes de la magie noire qui en sont capables, tout le monde sait ça. Tu connais Donnet sorcier qui parle au serpent, toi. Serpentard était lui-même surnommé langue de serpent.
Un murmure général s'éleva autour de la table.
Souviens-toi de ce qui était écrit sur le mur. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Potter a eu des ennuis avec Ruzard et comme par hasard, c'est le chat de Ruzard qui a été attaqué en premier. Crivet a énervé Potter en prenant des photos pendant le match de Quidditch, surtout quand il était allongé dans la boue avec son bras cassé. Et tout de suite après, Crivet devient la deuxième victime.
« Il a l'air tellement gentil pourtant, »
dit Anna qui ne paraissait pas encore tout à fait convaincue.
« Et puis c'est quand même lui qui a fait disparaître tu sais qui. Il ne peut pas être si mauvais que ça. »
Ernie baissa la voix, l'air mystérieux, obligeant les autres à se rapprocher. Harry s'avança un peu plus pour entendre ce qu'il disait.
« Personne ne sait comment il a survécu à cette attaque de tu sais qui. Il n'était qu'un bébé quand c'est arrivé. Normalement, il aurait dû être réduit en miettes. Seul un mage noir très puissant pouvait survivre à un tel maléfice. C'est sans doute pour ça que tu sais qui voulait le tuer. Il ne voulait pas qu'un autre seigneur des ténèbres vienne lui faire concurrence. Je me demande quels sont les autres pouvoirs secrets de Potter. »
Harry ne put en supporter davantage. Il s'éclaircit bruyamment la gorge et sortit de sa cachette. S'il n'avait pas été aussi furieux, il aurait éclaté de rire en voyant la réaction des pauvres souffles. On aurait dit qu'ils avaient été pétrifiés à leur tour et le visage d'Ernie était devenu livide. « Salut !» dit Harry. « Je cherche Justin Finfleshley. » Les pires craintes des poufs-souffles se trouvaient confirmées. Terrifiés, ils se tournèrent vers Ernie.
« Qu'est-ce que ce juif veut ?»
demanda Ernie d'une voix tremblante. « Je voulais lui raconter ce qui s'est véritablement passé avec ce serpent pendant le club de duel, » répondit Harry. Ernie se mordit les lèvres, puis il prit une profonde inspiration.
« On était tous là. On a bien vu ce qui s'est passé. »
« Alors tu as vu que quand je lui ai parlé, le serpent a reculé. »
« Tout ce que j'ai vu, »
reprit Ernie d'un ton buté, mais en tremblant de tous ses membres,
« c'est que tu as parlé fourche-langue et que tu as poussé le serpent vers Justin. »
Je n'ai pas poussé vers lui, protesta Harry, frémissant de rage. Je ne l'ai même pas touché.
C'était tout juste. Et au cas où tu aurais des idées en tête, je peux te dire que ma famille ne comporte que des sorciers et des sorcières depuis 9 générations, et mon sang est tout ce qu'il y a de plus pur. Alors, hein, je me fiche de ton sang,
répliqua Harry d'un ton féroce. Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'attaquer les enfants de Moldus?
J'ai entendu dire que tu détestes les Moldus, c'est qui tu vis,
répondit Ernie.
Il est impossible de ne pas détester les Dursley quand on vit chez eux. Essaie et tu verras.
Il tourna les talons et sortit de la bibliothèque, s'attirant un regard réprobateur de Madame Pince, occupée à astiquer la reliure dorée d'un gros grimoire. Harry suivit le couloir d'un pas chancelant. Il était tellement en colère qu'il ne savait plus très bien où il allait. Il se cogna alors contre quelque chose de très grand et de très dur qui le projeta par terre.
« Oh, bonjour, Hagrid !»
dit Harry en levant les yeux. Le visage de Hagrid était presque entièrement caché derrière un passe-montagne de laine couvert de neige, mais on ne pouvait le confondre avec quelqu'un d'autre, car il occupait presque toute la largeur du couloir dans son manteau en peau de taupe. Un coq mort qu'il tenait par les pattes pendait de sa main gantée.
« Ça va, Harry ?»
demanda Hagrid qui avait relevé son passe-montagne pour pouvoir parler.
« Comment ça se fait que tu sois pas en classe ?»«
Le cours a été annulé, » répondit Harry en se relevant. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Hagrid montra le coq inanimé.
« Le deuxième qu'on me tue, ce trimestre. C'est soit les renards, soit un gobelin buveur de sang, et j'ai besoin d'une autorisation du directeur pour jeter un sort de protection autour du poulailler. »
Sous ses sourcils broussailleux parsemés de flocons de neige, ses yeux observèrent Harry plus attentivement.
« Tu es sûr que tu vas bien? Tu m'as l'air d'être en colère et d'avoir des soucis en tête. »
Harry ne pouvait se résoudre à répéter ce que les élèves de Poufsouffle venaient de dire de lui.
« C'est rien. Il vaut mieux que j'y aille, Hagrid. J'ai un cours de métamorphose qui commence bientôt, je dois aller chercher mes livres. »
Il s'éloigna, la tête encore pleine de ce qu'il avait entendu dans la bibliothèque. Harry monta l'escalier d'un pas lourd et suivit un autre couloir particulièrement sombre. Un courant d'air glacé qui s'engouffrait par une vitre cassée avait soufflé toutes les torches. Il avait parcouru la moitié du couloir lorsqu'il trébucha contre quelque chose qui le fit tomber tête la première. Il se retourna pour voir dans quoi il s'était pris les pieds et sentit alors comme un coup de poing à l'estomac. Justin Finch-Fletchley était étendu sur le sol, le corps raide et froid, le visage figé dans une expression de stupeur, les yeux fixés au plafond.
Mais ce n'était pas tout. À côté de lui, Harry vit une autre silhouette qui offrait le plus étrange spectacle qu'il eût jamais vu. C'était Nick quasi sans tête. Le fantôme avait perdu sa couleur gris-perle et sa transparence. Il ressemblait à présent à une épaisse fumée noire qui flottait à 15 centimètres au-dessus du sol, immobile et horizontale. Sa tête était à moitié décollée et son visage avait la même expression de stupeur que celui de Justin. Harry se releva le souffle court, le cœur battant à lui rompre les côtes. Il regarda de tous côtés et vit une longue file d'araignées qui s'enfuyaient à toute vitesse. Il n'y avait pas un bruit en dehors de la voix étouffée des professeurs qui faisaient classe dans les salles proches. Il aurait pu filer tout de suite et personne n'aurait jamais su qu'il s'était trouvé là. Mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Justin et Nick sans aller chercher du secours. À présent, cependant, qui croirait encore à son innocence? Pendant qu'il restait là, en proie à la panique, une porte s'ouvrit dans un grand bruit juste à côté de lui. Peeves, l'esprit frappeur, surgit alors dans le couloir.
« Tiens, tiens, mais c'est le petit pote Potter. Qu'est-ce qui mijote, Potter? Pourquoi rôde-t-il dans ce... »
Peeves s'interrompit au milieu d'un saut périlleux. La tête en bas, il aperçut Justin et Nick quasi sans tête, et avant que Harry ait pu l'arrêter, il se mit à hurler.
« Attaque! Attaque! Nouvelle attaque! Aucun vivant, aucun fantôme n'est à l'abri, sauf qui peut! Attaque !»
Bang! 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 Les unes après les autres, les portes s'ouvrirent à la volée tout au long du couloir et une foule d'élèves et de professeurs se précipita sur les lieux du crime. Pendant un bon moment, il régna une telle confusion que Justin faillit être piétiné, tandis que des élèves affolés traversaient sans le voir le fantôme noirci et figé de Nick quasi sans tête. Les professeurs hurlaient pour réclamer le silence et Harry se retrouva plaqué contre le mur.
Le professeur McGonagall arriva alors en courant, suivi de ses élèves. Brandissant sa baguette magique, elle fit retentir une détonation qui rétablit le silence et ordonna à tout le monde de retourner en classe. À peine le couloir s'était-il vidé, Kearney et ses amis de Poufsouffle apparurent à leur tour.
« Pris sur le fait !»
dit Ernie, le visage livide, en montrant Harry du doigt d'un geste théâtral.
« Ça suffit, Macmillan ?»
lança sèchement le professeur McGonagall. Peeves sautillait toujours au-dessus de leur tête, observant la scène avec un sourire mauvais. Peeves aimait le chaos. Pendant que les professeurs se penchaient sur Justin et Nick quasi sans tête pour les examiner, il se mit à chanter.
« Potter, voilà encore une de tes ruses. Décidément, tu es les élèves, ça t'amuse. »
« Ça suffit, Peeves !»
aboya le professeur McGonagall. Et Peeves s'enfuit aussitôt en tirant la langue à Harry. Justin fut transporté à l'infirmerie par le professeur Flitwick et le professeur Sinistra du département d'astronomie. Mais personne ne savait ce qu'il convenait de faire de Nick quasi sans tête. Finalement, le professeur McGonagall fit apparaître un grand éventail d'un coup de sa baguette magique et le donna à Ernie en lui demandant de l'agiter devant Nick pour le pousser jusqu'à l'étage supérieur. Ernie fit ainsi glisser vers l'escalier la forme noircie du fantôme, portée par la brise de l'éventail. Harry et le professeur McGonagall se retrouvèrent seuls dans le couloir déserté.
« Pas ici, Potter. »«
Professeur, je vous jure que c'est pas moi. Ça ne relève plus de ma compétence. »«
Potter !» coupa sèchement le professeur McGonagall. Ils tournèrent à un angle du couloir et avancèrent en silence jusqu'à une gargouille de pierre d'une extrême laideur.
« Sorbet citron !» dit le professeur.
C'était un mot de passe. La gargouille s'anima soudain et fit un pas de côté. Derrière elle, le mur s'ouvrit pour les laisser passer. Malgré sa terreur à l'idée de ce qui l'attendait, Harry ne put s'empêcher d'être émerveillé. Derrière le mur s'élevait un escalier en colimaçon qui tournait lentement sur lui-même comme un escalator. Lorsque le professeur McGonagall et lui s'avancèrent sur les marches, le mur derrière eux se referma avec un bruit sourd. Ils s'élevèrent sans effort en cercles successifs, qui les emmenèrent de plus en plus haut. Enfin, Harry, légèrement étourdi, vit apparaître une porte en chêne aux reflets chatoyants, avec un heurtoir de cuivre en forme de griffon. Il savait où il se trouvait. C'était sûrement là qu'habitait Albus Dumbledore.